Transistor.
Vous êtes sur l'autre radio et vous écoutez Transistor, l'émission. Bienvenue et bonjour, chers auditeurs. Bonjour aussi à notre invité de cette dernière émission de la saison 2015-2016. J'ai nommé Antoine Fouché.
Bonjour.
Salut Antoine. Programmateur. Alors non, pas programmateur en fait. On en discutait avant l'émission, on va dire chargé de production du festival. Tu nous expliqueras justement comment marche le festival. Donc chargé de production, régisseur général du Festival des Mouillotins. Car après avoir reçu Jean Duval qui nous a parlé du Festival Pan lors de notre dernière émission, on continue notre petit tour des festivals du 5-3. En effet, en juin, la saison des festivals bat son plein et le week-end des 10 et 11 juin à Cuillé. Donc le Festival des Mouillotins fêtera son 15e anniversaire. On va prendre le temps avec Antoine de revenir sur cette déjà longue histoire du festival, hein, puisque voilà, quand même 15 éditions et un événement qui existe depuis 1997. Si je ne me trompe pas. On reviendra sur cette histoire et puis aussi sur, bien sûr sur la nouvelle édition, un peu spéciale, un peu augmentée, puisque voilà, on fêtera le 15e anniversaire du festival, enfin la 15e édition du festival. Mais avant cela, je vous propose de découvrir une nouveauté qui, une fois n'est pas coutume, n'émane pas d'un jeune groupe ou d'un artiste en herbe, encore que. Il s'agit d'un titre extrait du livre CD Avant le printemps qui paraîtra la semaine prochaine, voilà, c'est tout frais. Livre CD où on retrouve 14 chansons traditionnelles collectées en Mayenne, mais qui sont complètement revisitées et adaptées pour un chœur d'enfant, un quatuor à cordes et un trio jazz. Alors vous allez l'entendre, on est assez loin du trad et voilà, je vous propose de découvrir un extrait de ce livre CD avec un titre qui s'appelle Le mal dedans.
C'était une jeune fille, âgée de 15 à 16 ans, s'y promenant dans la ville, se plaignant du mal dedans. Sur son chemin, elle rencontre un médecin très savant. Que donneriez-vous la belle pour soigner votre mal dedans? Je te donnerai 500 livres et mon ceinturon d'argent, ainsi que mon cœur en gage. Le dites-moi à mes parents. Il ouvre son écritoire, puis il lui pose un nom grand. Posez, posez fort, dit-elle. J'ai sens du soulagement.
Mes dents, à mes dents, à mes dents, à mes dents, me font grand mal, à mes dents.
Voilà, le mal dedans, extrait d'un livre CD intitulé Avant le printemps, relecture de chansons traditionnelles collectées en Mayenne et disponible dans toutes les bonnes librairies du 5-3 dès la semaine prochaine. Antoine, puisque on parle musique trad, peut-être dire que le festival d'ailleurs vient de là justement, d'une tradition liée à une chanson qu'on chantait autrefois. Une chanson de quête, une quête d'œufs en fait, qui se faisait au 1er mai, ou entre le 30 avril et le 1er mai, dans la région de Cran, de Cuillé, où se base le festival. Et c'est de cette tradition-là qu'est né le festival. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là ?
Alors la tradition des mouillotins, c'est une tradition qui est plus que centenaire.
C'est super ancien.
Et du coup, pour nous en Mayenne, elle est surtout sur le pays de Cran. Mmh. On a aussi retrouvé des traces dans d'autres départements et même Québec et tout ça. Mmh.
Le principe, c'est des enfants qui sillonnaient la campagne et qui tapaient aux portes des maisons en chantant une chanson.
C'est ça, ouais.
La chanson des mouillotins.
C'est ça, donc je ne te chanterai pas parce que je ne la connais pas par cœur.
Ah, bravo.
Et du coup, oui, donc les enfants du village allaient de maison en maison et devant chaque maison, ils chantaient cette chanson en demandant aux gens de leur donner des œufs de leur poulette. Voilà, ça c'est extrait de la chanson qu'ils leur donnaient. Ils les invitaient aussi à manger ou boire quelque chose. Et puis à la fin de la collecte, dans la nuit, il y avait une rétribution aux personnes les plus pauvres des villages.
Forme de solidarité comme ça, communautaire.
Voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, cette tradition, donc, elle est arrivée sur Cuillé, parce qu'elle n'existait pas sur Cuillé, elle est arrivée sur Cuillé en 95, je crois.
Ouais, d'accord, ok. Réapproprié. C'est ça.
Et du coup, ils ont dû la faire 4-5 ans sur Cuillé. Et puis après, on a eu une législation qui interdisait la collecte des œufs, avec les histoires de salmonelle et tout ça. Donc, il y avait des collectes de denrées alimentaires qui étaient faites, de vêtements, des choses comme ça. Et puis après, cette tradition de redistribution, elle se faisait aussi sur le festival, dans les tout premiers festivals, puisque les bénéfices des tout premiers événements, ils étaient aussi redonnés sur des associations.
Les tout premiers événements, c'est pour situer, c'est 97, 98, c'est à peu près cette époque-là. Quoi.
Voilà, c'est ça, avec un Fest Days dans un premier temps. Donc ça, c'est aussi, je pense, dû à la proximité de la Bretagne, puisqu'on est vraiment à 3 km de la Bretagne, de la Guerche, de Bretagne, Vitré, tout ça. Et puis l'année d'après, 98, je pense, c'était un Fest Noz. Et puis après on bascule sur le premier festival en 2000, en fin de compte, avec la volonté des gens là qui avaient mis cette tradition sur Cuillé, de fêter de faire une grosse fête pour le passage en l'an 2000, voilà.
D'accord. Et on va revenir sur l'histoire du festival, parce que c'est un festival qui a pas mal évolué, qui a pris quelques virages. Mais avant de parler de ça, on peut peut-être parler un peu de toi. La musique, les concerts, j'imagine que c'est une passion que tu as depuis longtemps, bien avant de t'occuper du festival. Est-ce que c'est quelque chose qui était de l'ordre d'une transmission familiale, de tes parents, des frères et sœurs qui aimaient la musique, qui fréquentaient des concerts et qui t'ont transmis ça ? Comment t'es venu à tout ça, en fait ?
Alors dans la famille, c'était notre arrière-grand-père qui était musicien. Donc
ouais.
C'est,
ouais, ça remonte.
Ça remonte un petit peu, mais bon, moi je l'ai connu, je l'ai bien connu puisque j'étais l'aîné des arrière-petits-enfants. Moi je suis toujours l'aîné des arrière-petits-enfants. et du coup, je passais beaucoup de temps chez eux. Donc ceux qui me gardaient, tout ça. Donc il avait toujours l'harmonica sur... table ou dans la poche, et puis il faisait aussi du violon, et puis à chaque fois qu'il y avait un repas de famille, on avait le droit soit une chanson ou un air quelque chose en fin de compte.
Donc la musique, elle était présente dans l'environnement familial déjà, quoi.
Voilà, ouais. Mm-hmm. Et puis après, ça vient surtout au collège, en fin de compte, avec les grands frères des copains qui filent des cassettes, des cassettes de rock. Ouais,
c'est ça à l'époque. Donc les voilà, cassettes copiées, voilà.
C'est ça.
Dupliquées.
Les premiers Nirvana, tout le côté rock là, toute la vague grunge, voilà. Mmh. C'est ça. Et puis j'avais un voisin en fin de compte aussi qui était gallois, et donc on prenait le car ensemble et tout ça, et lui il ramenait tout, moi il allait tous les étés, souvent en vacances il allait
à la source, ouais.
Voilà, c'est ça. Mmh. Il nous ramenait c'est lui qui nous ramenait les gros trucs, les Sepultura, l'album Roots là, tous ces des mixtapes aussi, musique électro, genre les premiers mixtapes de Jungle là, qu'on écoutait en 93-94, Prodigy, tous ces trucs là, quoi. Voilà. Mm. Donc pour aller à l'école le matin, on se mettait des on avait un casque pour deux, tu vois, on avait chacun
son oreillette,
et puis du coup on écoutait ça, voilà.
D'accord. Ça se passait où, ça? Toi, t'es originaire de Cuyé, justement, de Cossé, de ce coin-là, ou...
Du tout, non. D'accord. Mes parents sont originaires de Beaulieu-sur-Oudon.
Ah, du tout, ouais. C'est juste à Diborne, quoi.
Voilà. Et puis, du coup, mais le car n'allait pas à Beaulieu-sur-Oudon, donc il passait devant chez nous, et donc il allait à l'école à Cossé. Donc j'allais à l'école à Cossé.
D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est... Est-ce que toi, t'as connu l'histoire du festival dès le départ, dès les premières éditions dont on parlait tout à l'heure? Comment tu t'es... Voilà, quand tu t'es raccroché à ce projet-là, d'abord en tant que spectateur, en tant que bénévole, j'imagine.
Alors, j'ai fait la première édition en 2002 en tant que spectateur. On faisait beaucoup de concerts déjà avec nos potes. On faisait beaucoup de kilomètres, en fin de compte, pour aller... parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concerts à l'époque, donc on allait en Bretagne souvent, ou dans les grandes villes, voilà. Et puis c'était en 2002, c'est l'année de Sine Sémilla, tout ça, donc du coup on avait été voir, malgré qu'on les avait déjà vus ailleurs, mais comme ça passait
c'était chez
tout,
vous,
voilà, donc on avait fait l'effort, on avait été, donc c'est ma première participation en tant que spectateur au Festival des Mouillotins.
Ouais. Et puis après, c'est le bénévolat.
Bénévolat. Donc j'arrive dans l'association par le biais du projet jeune, en fin de compte, avec Janie. Mmh. C'est donc Janie Clus là qui s'occupait du projet jeune à l'époque.
C'est une sorte de centre social, enfin
service jeunesse.
Ouais, voilà. Service jeunesse de la ville de Cran, pays de Cran.
C'est ça. Mmh. Et du coup, qui me dit, ouais, il cherche du monde en tant que bénévole dans la programmation et tout ça. Donc du coup j'ai rejoint l'équipe en 2007 dans l'équipe programmation. Donc c'était plutôt pas mal, puisque
de se retrouver tout de suite déjà pour finalement décider de ce qui allait jouer au festival.
Ouais, timidement, parce qu'en fin de compte quand t'arrives dans une équipe comme ça, t'es plus une oreille qu'un avis, quoi, on va dire. Mais j'étais très content de rejoindre le festival par ce biais.
Et puis après, en fait, tu as passé un peu la ligne, puisque tu as été salarié du festival en 2009, je crois. Ou
alors,
2010, oui.
2010, en janvier 2010. Mais bien avant, en fin de compte, après la programmation, je suis parti dans l'équipe d'éco. Donc, c'était nos premiers projets d'éco aussi. 2009, je suis rentré encore un peu plus dans l'assaut avec la partie administrative. Je commençais à faire des réunions qui touchaient à d'autres commissions, en fin de compte. Et puis, 2010, l'entrée comme salarié via un contrat aidé, en fin de compte, à mi-temps.
Et du coup, aujourd'hui, tu es toujours en partie, en tout cas salarié, ou en tout cas, tu travailles professionnellement pour le festival. C'est quoi tes missions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour le festival aujourd'hui en tant que chargé de production, comme on disait tout à l'heure, et régisseur? C'est quoi tes tâches, en fait?
Alors, je fais, en tant que chargé de production, je fais tous les montages on va dire administratifs du festival, les demandes de subventions. Je fais de la coordination aussi d'équipes ou de commissions. Donc, qui va de la communication, de la programmation et bien d'autres. Et puis, en tant que régisseur, je fais de la coordination, de la mise en place logistique sur le festival. Donc là, de la réservation de matériel qui va de la restauration jusqu'à la scène, quoi, son, lumière et tous ces trucs-là.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Vous avez reconnu, je pense, The Doors, voilà, Break On Through, ça fait toujours plaisir, hein, je pense, d'écouter ce morceau. Pourquoi ce choix, j'imagine, Antoine, pourquoi ce choix ? J'imagine que t'as pas découvert ça lorsque c'est sorti.
Non, c'est sûr.
Pourquoi les Doors ?
Pourquoi les Doors ? Bah, en fin de compte, ça fait partie de mon... des trucs que je réécoute régulièrement, tu vois.
Ouais, ça vieillit pas trop.
Non, et puis je sais pas, voilà, je trouve que c'est pas forcément du rock, ça mêle plein de styles, ça peut être du jazz, ça peut être plein de trucs, quoi.
Ouais.
Et puis voilà, c'est des albums que j'ai rincés quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, c'est des choses où je me suis jamais lassé, quoi, en fin de compte.
Ouais, ouais. Ah, c'est clair, on se lasse pas trop des Doors. Dans ta playlist, on n'a pas pu le passer faute de temps, mais on pourra pas le passer faute de temps, mais t'avais aussi choisi DJ Shadow. Voilà, on sent un certain éclectisme entre The Doors et Shadow. Il y a vraiment un monde et des époques aussi qui sont passées. Voilà, t'es quelqu'un qui revendique ça, justement, cet éclectisme-là, des goûts très variés, dans des styles très différents. C'est quoi finalement tes goûts musicaux et...
Bah, je suis pas arrêté sur un style, en fin de compte. J'écoute peu de rock, on va dire, mais ça me dérange pas, tu vois. J'écoute pas de musique extrême du tout, mais ça me dérange pas non plus. J'écoute beaucoup de hip-hop, musique urbaine en fin de compte, et puis musique électronique, voilà. Mais depuis mes sorties en bus pour aller à l'école, quoi, voilà.
Ouais. Donc ça date. Et est-ce que ça influence ses goûts personnels? Est-ce que ça influence justement la programmation du festival? Est-ce qu'on n'est pas tenté de programmer, d'inviter des artistes qu'on aime dans le festival dont on s'occupe.
Bah, je pense que, mais je suis sûr que quand tu fais de la prog, tu fais des compromis en fin de compte. Et t'as pas le choix, parce que si tu programmes que pour toi, tu fais des petites. Tu programmes dans ton salon, un truc comme ça, tu vois. Donc du coup, non, moi, je pense qu'il faut faire des compromis. Moi j'en ai fait avec l'équipe. Il y a des choses qu'on a programmées, on n'était pas, c'est pas des choses qu'on écoutait, mais on se disait, bah voilà, ça va intéresser du monde, et puis on a besoin aussi d'avoir du public, tout simplement. C'est pas parce qu'on est gratuit qu'on n'a pas besoin de voir du monde sur le festival. Donc il y a du compromis.
Justement, la programmation, ça se passe comment? C'est pas une personne, parce qu'il y a des festivals où voilà, ça fonctionne comme ça, c'est une personne qui décide de la ligne artistique du festival. Là, en fait, c'est un fonctionnement collectif via une commission, si je ne me trompe pas.
Oui, voilà, on a une commission programmation qui est composée de 6 ou 8 personnes, je ne sais plus trop, qu'on a grandi aussi depuis quelques années avec l'arrivée de nouvelles personnes aussi dans l'association. On fonctionne comment chacun apporte un peu ses idées sur... Chacun apporte ses idées, sachant qu'on a vraiment, je pense, une identité maintenant sur notre programmation.
Oh, on y reviendra. Ouais.
Et puis, bah moi, j'ai quand même un peu plus de temps que les autres. Franchement, c'est pas que j'ai pas plus de temps, mais c'est que je peux écouter de la musique au travail. Et du coup, je suis peut-être un peu plus au fait de l'actualité, des choses comme ça. Et je fonctionne beaucoup sur la proposition. Ouais. Et je fais ouais, ça, ce serait pas mal. Ou on a déjà travaillé avec cet artiste-là qui remonte à notre projet. Donc des fois on fait, des fois on fait pas. Mais ça amène toujours des discussions. Il y a des artistes qu'on n'a pas fait, qui je pense notamment à... Parce qu'il y a des choses qu'on voit passer les projets, on sait plus ou moins ce qui va marcher. Pour les 10 ans, on devait faire un plateau vendredi avec Bigaranx et puis plein d'autres artistes du même label qu'on n'a pas fait. Aujourd'hui, on voit la place que Bigaranx se prend. Deux ans après, on a fait la même avec Naman, c'est-à-dire que c'est un artiste qu'on avait sous le coude, qu'on devait proposer sur le festival, et puis qu'on n'a pas fait parce qu'on s'est dit, bah non, ça va faire trop de monde, et puis du coup, on a pris autre chose.
Inverse, ah bah non, on va avoir trop de monde avec ça.
Et du coup, ouais, mais du coup.
Le truc que personne ne se dit, quoi.
Non, mais on a fait découvrir autre chose. C'était l'année où on a pris Scarcrow, qui était un projet blues hip-hop, d'ailleurs, auquel.
Qui a bien tourné aussi.
Ouais, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui. C'était vraiment un coup de cœur pour moi, tu vois. Et puis on a fait aussi Soviet Suprême cette année-là.
Ouais, qui a fait du chemin depuis.
Ouais. Et ouais, voilà. Et c'est quand on a fait Soviet Suprême, il y avait quand on a confirmé le projet, il y avait 3 titres de sortie, même pas 2 titres, c'est tout quoi. Et donc voilà.
Et la ligne du festival, justement, la artistique, la programmation, elle a pas mal évolué en 15 éditions depuis les premières éditions du festival au début des années 2000. Au tout départ, on était sur un festival assez classique, un festival payant avec une programmation plutôt tête d'affiche avec des noms quoi. Voilà, ça c'était en 2000-2002. Il y a eu, on a vu passer chez vous, il y a eu, on en parlait tout à l'heure, Triane, Sensimilia, donc que tu citais, Higelin. Voilà, il y a eu d'abord ça, et en fait, vous étiez pas, enfin, le festival n'était pas à cette époque-là sur une régularité quoi. C'était pas tous les ans, c'était un peu tous les 2 ans, tous les 3 ans. Il y a eu d'abord ça. C'est comme ça qu'a démarré le festival.
C'est ça, ouais, parce que ça prend du temps, en fin de compte, de monter un festival, surtout quand on est en forme associative. Bon, et puis c'était vraiment tenu par une poignée de personnes à l'année, en fin de compte. Alors les gens suivaient sur le week-end du festival, sur le montage, sur la soirée du festival. Mais ça implique beaucoup de choses, beaucoup d'investissements. Et du coup, oui, on a fait 2000 avec Triane. Donc là, c'était un peu la continuité des fest-noz qu'on faisait. Donc,
ouais, il y avait encore un côté musique trad bretonne.
Voilà, ouais. Mais là, on passait vraiment sur une grosse formule avec un gros groupe. Voilà, c'est entre les musiques actuelles et puis, on va dire, musique actuelle entre parenthèses, et puis le trad. On passe vraiment une formule gros concert. Et puis bah, après, plutôt rock, en fin de compte. Ouais, plutôt d'influence rock. Mais je pense que ça va aussi avec les... avec les personnes, tu vois, qui étaient dans l'association, des gens... par exemple, j'ai 10 ans d'écart avec Thierry, qui est le président aujourd'hui, mais ça se ressent aussi dans les écoutes musicales.
Ouais, bah oui.
Donc lui, plutôt rock. L'ancienne équipe de programmation était plutôt rock, donc on a fait du Kieffel, on a fait du Rachita, on a fait du Pigalle. Et puis nous, aujourd'hui, on arrive avec des projets plus électro, plus musique urbaine, donc hip-hop, reggae, des choses comme ça. Quoi.
Si on revient sur les différentes étapes, les différentes phases qu'a pu connaître le festival, en 2005, alors tu vas me détromper si je me trompe justement, mais 2005 ou 2007, il y a un tournant dans le festival. Justement, tu évoquais le fait que ça prend beaucoup de temps d'organiser ce type d'événement. Et là, il y a la décision d'embaucher quelqu'un, d'avoir un permanent.
En 2007, ouais, il y a...
Et là, le festival prend une autre ampleur aussi, forcément.
Bah oui, en 2007, bah déjà, ça permet d'avoir du temps quand tu tiens tout à bout de bras. Donc là, je parle pour le président qui tenait tout à bout de bras. Et puis là, tu peux enfin compter sur quelqu'un qui te monte les dossiers.
Qui est là tous les jours, qui peut s'y consacrer.
C'est ça, ouais, qui commence à mettre en place des partenariats avec les collectivités, les acteurs locaux. Et puis qui, c'était Alex, là, et du coup, lui, il avait un carnet d'adresses aussi. Donc c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui était vraiment dans le milieu, quoi. Et du coup, pareil, lui, quand il est arrivé, il a fait des compromis entre ses envies et ce que voulait l'association, en fin de compte. Donc 2007, le premier emploi, bien sûr, sur des dispositifs emploi aidé, tout ça, donc une année. 2008, aussi un salarié. Et 2008 aussi, un autre tournant, c'est qu'on commence à être tous les ans. Ouais. Et puis
vous quittez l'irrégularité pour vraiment prendre une fréquence annuelle, quoi.
Bah, en fin de compte, c'était un constat, puisqu'on se disait, déjà en 2007, il y avait une fréquentation qui était en dessous de ce qu'on attendait. Donc un break qui n'était pas fait.
Ouais. Donc des finances dans le rouge.
Aussi, ouais, mais du coup, tu te poses des questions. Donc, alors, programmation peut-être, mais en tout cas, il y avait ce truc en se disant, bon, bah déjà, on était sur le mois de mai, donc à chaque fois, on avait des week-ends un peu pourris. Du coup, on se dit, bon, on va trouver une autre date. Donc, on regarde l'agenda, machin, où est-ce que c'est libre. Le deuxième week-end de juin était libre, donc on se bloque ce week-end. Donc, du coup, on décide de passer tous les ans, on change de week-end et de mois, on passe en juin, et puis du coup on se dit, bah, ce serait bien qu'on fasse comme un vrai festival sur deux jours, parce que les autres éditions, les éditions précédentes, on était sur une seule soirée. Donc là on commence vraiment à rentrer dans une vraie formule festival comme on peut voir aujourd'hui.
Ouais,
quoi.
Ouais. Du coup en 2007, il y a un artiste que vous recevez qui est un peu la tête d'affiche du festival et que tu as sélectionné dans ta petite playlist pour cette émission, c'est Abdel Malik. Un mot sur ce musicien, pourquoi tu as choisi ce titre-là, quel souvenir ça t'évoque?
Abdel Malik, c'est déjà c'est Victoire de la musique cette année-là.
Et en fait, vous le programmez avant que ça explose.
C'est ça, ouais.
Vous le payez des clopinettes alors qu'il est en train de devenir. Enfin, ouais, j'exagère.
Non,
mais,
si, c'est ça.
C'est un peu l'opération en or, quoi, le truc dont tu rêves.
Ouais, carrément. Ouais. Mais c'est aussi le tournant pour nous en équipe, les jeunes programmateurs de l'époque. C'est-à-dire qu'on arrive aussi avec un autre courant musical qui est le hip-hop, le slam. Et du coup, quelque chose qui marche, puisque Abdel Malik, derrière, on a la carrière, il a la carrière qu'on lui connaît, en fin de compte.
Ouais.
Donc c'était un peu. C'était un peu notre façon d'arriver, de prendre un peu la main sur la programmation pour le festival, en fin de compte.
Ok, on écoute donc Abdel Malik, Gibraltar.
Détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu. Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui. Et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. We'll be right back.
détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme. Sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.
Comeback en 2007 avec Abdelmalik sur l'album Gibraltar aussi, il me semble, et ce titre Gibraltar également. Donc Antoine, on continue d'évoquer l'histoire du Festival des Mouillotins qui fête ses 15 ans. L'occasion de dire d'ailleurs que le Festival des Mouillotins, justement, ce n'est pas qu'un festival. C'est aussi plein d'autres initiatives qui ont pu être lancées à différentes époques, assez tôt d'ailleurs dans l'histoire du festival. C'est notamment un tremplin. Qui s'appelait pas d'ailleurs comme il s'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire les Émergences. Mais c'est vous qui êtes allié, c'est le festival qui a des Mouillotins qui est à l'origine de ce tremplin qui aujourd'hui continue d'exister, qui a pris une belle ampleur. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ça, de comment ça s'est créé, puis comment ça a évolué?
Alors moi j'étais pas trop sur l'assaut, je crois que c'est notre président qui avait été voir aux Ondines à l'époque. Pour monter un tremplin. Alors je crois que le tremplin il était à Ballot, donc c'était vraiment, l'idée c'était vraiment de décentraliser autour du festival, c'est-à-dire qu'il y avait une date phare qui était sur Cuillé, ouais. Et puis en amont il y avait un concert à Renazé, un concert à Ballot, et puis ça doit être la première année du festival Jeune Public aussi.
Ouais, on va en reparler, les Mouillots, ouais.
Voilà. Et donc ouais, voilà, il y avait cette envie, je pense, de mettre en avant la scène locale où il n'y avait pas forcément moins. Je pense que les groupes locaux jouaient beaucoup dans des bars.
Ouais.
Et l'idée c'était de les amener sur les festivals, quoi.
Du coup, en fait, d'un projet qui était local, c'est devenu quelque chose de départemental, puisque les concerts de sélection du tremplin se sont faits à Cran, mais aussi à Mayenne, et du coup le troisième,
Évron.
Voilà, et puis la finale le concert final du tremplin était aux Ondines. Donc voilà, il y a de quelque chose qui est né à Cuillé, en fait on a maintenant une opération qui est départementale. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs dire que l'appel à candidature pour la prochaine édition sera lancé le 6 juin. Donc voilà, cher groupe, à vos démos. Et puis, effectivement, tu l'évoquais, il y a aussi un festival jeune public, Les Mouillots, c'est comme ça que vous l'appelez.
Oui, c'est ça.
Et du coup, qui existe aussi depuis quand même pas mal de temps. C'est quoi l'idée? C'est quoi le concept?
Alors le concept sur un festival jeune public, c'est de faire venir de la prog jeune public, on va dire. Au début, c'était sur une après-midi concert. Surtout.
Donc ça se fait en amont du festival, hein, c'est plus tôt.
Ouais, voilà. Alors aujourd'hui, ça se fait en amont, mais avant, on faisait ça la semaine d'après, genre
d'accord.
Le mercredi d'après.
Oui, c'est vrai.
Et puis bon, ça faisait trop. Et ouais. Puis bon, après, on se dit bon, on va faire ça 15 jours après, donc on faisait ça 15 jours après, ça faisait trop aussi. Puis on s'est dit, bah, ce serait bien de prendre le temps de le faire correctement. Et puis maintenant, c'est arrivé au mois d'avril.
Ouais.
Avec des changements, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a modifié au fil du temps. Avec récemment la réforme des rythmes scolaires, on faisait ça le mercredi. Y avait de l'école le mercredi, donc c'était râpé. Du coup, on est passé sur les vacances scolaires. Et puis, on a aussi su adapter notre public, c'est-à-dire que. Maintenant, on appelle, on prend notre téléphone, on fait des mailings, on les centres de loisirs, voilà. Au début, on se contentait d'appeler autour de Cuillé, moins Pays de Cran, tout ça, surtout Gontier, allez, peut-être un peu de Laval. Et puis maintenant, on sort complètement du département, puisqu'on a des. On doit avoir 5 ou 6 centres qui viennent d'Ille-et-Vilaine. Et puis, du coup, depuis 4 ans, je crois, depuis 2010, on est complet quasi, ouais.
Donc c'est combien de marmots qui débarquent ?
Ça fait 600 mômes.
D'accord, ça va, c'est gérable. Est-ce que c'est plus facile à gérer 600 mômes que 600 publics normal ?
Ah mais moi, ça se gère tout seul. Ils sont accompagnés déjà, ouais, donc alors qu'un festival, il a beau être accompagné, c'est pas pour ça qu'il est bien accompagné, on va dire.
Ouais, donc là il y a les animateurs, les instits, voilà, c'est ça.
Ouais, voilà, les parents aussi, parce que c'est aussi ouvert aux familles et tout ça.
Ouais. Est-ce que ça se fait sur un samedi, un mercredi ?
Ça se fait sur une journée entière, un mercredi.
Ouais, donc en fait on peut venir aussi hors cadre scolaire.
Ouais,
en fait.
Voilà, ouais. Du coup, on est sorti complètement du cadre scolaire, quoi.
D'accord.
Et puis c'était une volonté parce que on sait que cadre scolaire, ça implique aussi peut-être un projet pédagogique derrière, des histoires de transport, de coûts, de disponibilité, de
c'est plus lourd.
C'était plus compliqué. Du coup, on n'avait pas envie d'aller vers quelque chose de compliqué. Et du coup, c'est une prestation un petit peu, quoi. On vend un peu une prestation, quoi. Bon, après, on fait, c'est une prestation culturelle, donc il y a aussi une programmation qu'on met en place. On est sur différents esthétismes, notamment on fait beaucoup de théâtre ou de marionnettes, juste comme ça, le matin. Sur le temps du midi, on a l'assaut Payaso Loco là, qui nous fait les jeux.
Ouais.
Et puis on a un concert l'après-midi.
D'accord.
Tu vois, ça commence à. Le premier concert, le matin c'est 11h, donc les centres arrivent à 10h, 10h30, et à 15h30, 16h c'est plié. Et à 17h30, c'est place nette. Voilà, on rentre chez nous. Alors que voilà, c'est un festival, c'est pas ça, quoi.
Ouais. C'est un peu plus coolos.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis ça marche bien. Au début, c'était un partenariat avec la Comcom de Renazé. Maintenant, donc c'est le Pays de Cran qui nous soutient sur ce projet, qui fait partie intégrante du projet des Mouillotins. Il y a des réflexions sur une évolution sur ce projet. Après, je ne sais pas si on le fera ou pas. Et puis oui, c'est un des projets qu'on a développé. Aujourd'hui aussi, on fait une journée compte au mois de décembre.
D'accord.
Donc c'était une après-midi, ce qu'on appelle le goûter-compter. C'est le premier samedi des vacances de Noël. On a fait 2-3 éditions avec les enfants. Et puis, on a étendu cette année aux adultes. Donc, on fait un apéro-compter.
D'accord, c'est cool.
Ouais, carrément. Ouais.
Je connaissais pas cette initiative.
Et du coup aussi on fait autre chose, parce qu'il y a un volet aussi un peu social dans l'assaut, on travaille avec les services jeunesse, on travaille service jeunesse ado, petite enfance aussi.
Et du coup, c'est quoi comme type de partenariat, en fait, ça se concrétise comment ?
Alors ça tourne quand même souvent autour du festival, c'est-à-dire qu'il y a une finalité, un projet qui se retrouve souvent sur le festival.
D'accord.
Hein, soit de l'art plastique, c'est souvent de l'art plastique, ou des ateliers qui n'ont rien à voir, puisqu'on fait depuis, je crois depuis 2010 ou 2011, on a monté un atelier sérigraphie là, sur l'association. Et on intervient avec les services jeunesse. Au mois de février, là, on était accueillis sur les temps d'accueil périscolaire, donc sur les TAP, avec les CM. Donc là, on est vraiment sur du tout jeune.
Donc là, c'est une initiation à cette technique de création plastique, en fait, qui est la sérigraphie, quoi.
Ouais, voilà, c'est une prise en main rapide, hein, parce qu'on ne participe pas à tout le processus, mais ils font de l'impression, ils voient une façon différente de faire de la reproduction d'images, puisque c'est ça un peu le principe. Et puis, les mômes, ça marche bien, tu vois, il y a de la peinture, il y a du papier, machin, et le truc, en 3/4 d'heure, il s'est pris en main, ils sont autonomes quasi sur l'atelier, quoi. Et puis, on le fait aussi avec le service jeunesse, Cossé. Et puis, ça marche bien, on fait nos portes ouvertes. Tous les ans, on développe un petit peu cet atelier, quoi.
Là, ça procède plus d'un intérêt personnel ou d'où c'est venu cette idée de travailler autour de la sérigraphie ?
C'est moi qui... Alors, quand on est embauché dans une entreprise, on a le droit de faire des formations. Et du coup, alors, j'ai fait des formations en rapport avec mon travail, donc les LEC, des trucs de SIAP, sécurité, tous ces trucs-là. Et puis, j'avais aussi envie de faire un truc, j'ai envie de découvrir la sérigraphie. Et pour le coup, je suis parti à Poitiers, à la Fanzinothèque.
Ouais.
Qui ont un gros atelier avec un emploi permanent, je sais plus si c'est encore le cas ou pas, mais il y a un atelier, il y a un emploi permanent qui est sur la sérigraphie. Et puis après, ils ont plein d'animations autour du fanzine, de la BD, tout ça, quoi. Et ils ont un gros stock, de documentation, quoi, là-dessus. Et puis ils sont aussi, il y a tout un pôle, il y a le jardin, il y a le confort moderne, ouais, qui est à côté, il y a un pôle, il y a un pôle artistique.
Toi, t'as pu te former là-bas à cette technique et pouvoir ensuite l'enseigner, en tout cas là. Initier des enfants ou des adultes à cette technique.
Le principe de la sérigraphie, c'est aussi d'apprendre par soi-même. C'est-à-dire que, bon, en plus aujourd'hui, il y a plein de tutos, il y a plein de trucs, il y a plein d'échanges que tu peux avoir sur le net avec différentes personnes. Et si tu as une question, tu la poses. La réponse, elle est sur la toile, quoi. Donc voilà.
Retour en 2008 sur une édition du Festival des Mouillotins qui accueillait Pigalle. Et c'est ton choix suivant pour cette sélection musicale, Antoine. Un mot sur Pigalle. J'imagine que c'était assez fort d'accueillir un groupe qui a quand même marqué son temps et qui se reformait à cette époque-là.
Pour moi, en fin de compte, c'est un groupe que je connaissais mais que je n'avais jamais pu voir puisque j'étais trop jeune pour l'avoir vu sur scène. Et du coup, quand on a eu cette proposition de programmation de Pigalle, on était enchantés. Et j'étais vraiment comme un gamin sur scène, assister au concert sur scène et faire la sortie de scène et tout ça. Ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Et du coup, oui, je l'ai remis parce que c'était vraiment un projet pour le coup, tu vois, qui marquait. Qui rassemblait les deux générations d'équipe, dans l'équipe programmation, avec les anciens qui étaient plus musique rock et puis nous qui écoutions ça aussi, mais c'était un petit clin d'œil.
Ok, donc Pigalle, un troisième choix de notre invité Antoine Fouché dans la salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs.
Dans la salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs, y'a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y'a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope, c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces.
dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y'a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar tabac de la rue.
Pigalle, que le Festival des Mouillotins accueillit en 2008, année après laquelle le festival marquera d'ailleurs une pause, enfin en tout cas un vrai virage dans son projet. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, Antoine? Je crois qu'il y a aussi eu des problèmes financiers. En tout cas, en fait, on était aussi à une époque d'ailleurs où beaucoup de festivals ont eu des problèmes financiers. Il y a eu pas mal de festivals qui ont mis la clé sous la porte à ce moment-là. Sous le paillasson, je sais pas comment ici, sous la porte, c'est ça qu'on dit. Et en tout cas, voilà, c'était une période où il y avait pas mal de concurrence entre. Il y a eu beaucoup de festivals qui s'étaient créés, du coup, un phénomène de concurrence qui faisait que finalement certains festivals avaient du mal à tirer leur épingle du jeu. Et vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, en difficulté financière, avec un trou que vous avez mis pas mal d'années à boucher.
Bah, du coup, en 2008, on fait le constat que c'est notre troisième édition consécutive déficitaire. Donc avec des dettes, tant que c'était une idée bizarre, mais d'essayer de boucher des trous en refaisant une édition.
Vous recreusiez un petit peu plus le trou.
Ouais, mais ça aurait pu marcher, tu vois.
Mais ça n'a pas marché.
Mais oui, comme tu dis, je pense qu'il y avait une multitude de festivals à se monter. D'ailleurs, j'en parlais avec... avec les éclectiques
dans le Choletais.
Voilà, qui en 2006 aussi font un déficit assez impressionnant. Ouais. Et du coup, les bénévoles de l'époque, donc, qui ont creusé ce trou, empruntent aux banques pour se porter garant auprès des collectivités et tout ça, auprès des banques pour repartir. Et aujourd'hui, c'est un festival qui marche très bien.
Ils ont su trouver aussi une formule, un modèle économique viable, quoi.
Bah, en fin de compte, oui, il y a une remise en question. On essaye de trouver une formule, parce qu'en fin de compte, si on fait ça, c'est qu'on est passionné. Je veux dire, passer son temps à organiser des choses bénévolement, c'est que tu y tiens. Et puis, pour en revenir à notre cas, les gens de l'association voulaient pleinement assumer ce déficit. Donc ils ont mis la main à la poche avec leur propre argent pour résorber le déficit.
Ouais.
Et puis en 2009, bah oui, on change de formule, donc avec un désir de continuer, mais différemment. Donc déjà, on change de terrain, on retourne au...
Back to the roots.
C'est ça, on retourne au terrain des sports. Et du coup, avec une édition gratuite, c'est-à-dire que on va voir les collectivités pour leur demander si elles peuvent nous aider. Ils nous font non, c'est pas possible. Par contre, on maintient. On leur dit, si on repart, est-ce que vous nous donnez toujours de l'argent? Ils font oui, on maintient les subventions. Donc du coup, il y a plus d'emploi. Donc un emploi, même s'il est aidé, c'est 6-8 000 euros, un truc comme ça. Donc déjà, ça, c'est pas en charge. Et puis on passe sur du gratuit, on revient sur une journée de concert, mais le vendredi en bar. Et du coup, on diminue tous nos budgets par 3 ou 4. Je crois à l'époque, on devait avoir 9000 euros de programmation, un truc comme ça. Quoi.
Oui, ce qui est vraiment peu. Ouais. Voilà.
Et ça marche, c'est-à-dire qu'on fait plus de 3000 personnes, chose qu'on n'arrivait pas à faire en 2008 et même les années d'avant, en fin de compte, avec une programmation...
avec des grosses têtes d'affiche.
Ouais, voilà. Mmh. Et du coup, là, on était sur vraiment du local, peut-être local, département voisin. Et puis, on avait une tête d'affiche nationale qui était Oldelaf et Monsieur D à l'époque. Mmh. Mais qui était nationale, mais qui n'était pas trop connue non plus. Quoi.
Ouais, c'était le démarrage de ce projet-là aussi. Ouais.
Et du coup, ça avait bien marché. Et ce qui nous a plutôt confirmé que notre choix était bon. Et du coup, ça nous a permis de continuer vers la gratuité.
Vous avez gardé cette formule gratuite sur une journée. Après, vous êtes passé sur 2 jours. Et en maintenant cette formule gratuite et aussi... Il y a eu toujours un succès public puisque la fréquentation n'a fait qu'augmenter. Quoi. Vous êtes arrivé même à un pic en 2011, vous étiez à 7000 entrées.
Ouais, c'est ça, on a fait du 3000, 5000, 6, 7, 8. Et jusqu'à là, on était à plus de 10 000 personnes. Quoi.
Voilà, donc c'est exponentiel. Bravo.
Voilà.
Et voilà, il y a cette évolution de formule et puis aussi de programmation. On a pas mal parlé de ça déjà, mais. Il y a eu une orientation, en tout cas un glissement qui s'est fait vers des esthétiques plus électro, plus reggae, plus dub, plus hip-hop. Et ça aussi, je pense que ça a contribué à donner une image, une identité musicale au festival et aussi à fédérer un public. Enfin, voilà, est-ce que tu partages cette analyse ?
Ouais, carrément. Mais on avait aussi la volonté, puisqu'on parlait de tradition des Mouillotins et tout, et on avait eu cette réflexion en se disant la musique traditionnelle, c'est aussi les fanfares, tu vois, c'est vraiment partie du patrimoine.
Il y avait ça aussi.
Et on a commencé vraiment à mettre les fanfares dans la programmation. Donc je me souviens, quand je suis arrivé en 2008, moi j'avais vraiment insisté pour qu'on ait des fanfares sur les changements de plateau au sol. Quand on a commencé en 2009-2010 sur de la gratuité, l'idée c'était de se dire que les fanfares aussi, elles peuvent aller sur scène. Et puis il y avait de plus en plus de fanfares qui...
ça correspondait à un mouvement aussi un peu général, ouais.
Ouais, donc il y avait par exemple le fanfare du Belgistan qui était venu, la fanfare en pétard qui est sur un esthétique hip-hop, donc ils font de la fanfare, donc musique trad, mais sur de la musique actuelle, on va dire. Et puis on l'a fait, d'ailleurs on avait rebaptisé l'événement les Mouillotins Fanfare.
Oui,
voilà.
C'est vrai. Et ça a été épisodique. Finalement, vous êtes revenu après.
Ouais. Mais ouais, parce que y avait aussi une volonté sur le projet de Fanfare de se dire on fait un festival différent, axé sur les fanfares. Et du coup, on se démarque aussi. Ça, c'était pour. C'était une technique pour avoir des sous, quoi, je suis sûr. Et ce qui n'a pas marché. Et du coup, on s'est dit, on va faire. On va retourner sur ce qu'on sait faire.
Ouais, toujours avec quand même une dose de fanfare, parce que tous les ans, il y a quand même des fanfares qui sont programmés au festival.
Oui, mais c'est beaucoup plus petit. Je veux dire. Et aujourd'hui, c'est marrant, puisque à Vitré, donc vous êtes de chez nous, il y a un festival qui est parti, qui s'appelle Les Fanfares. Farfelu, ouais. Donc c'est la deuxième édition cette année.
Ouais. Et eux se sont vraiment mis sur ce créneau.
Mais ouais, carrément, quoi. Et du coup,
c'était une bonne idée.
J'en discutais avec eux, c'est bien que vos élus, ils vous aient suivi là-dessus, qu'ils aient appuyé le projet, puisque nous, on avait trouvé zéro rail là-dessus, quoi. Et l'année dernière, ça a super bien marché. Là, ils ont encore une belle affiche. Donc, comme quoi, il y avait vraiment un créneau et voilà, quoi.
Alors, c'est à ce moment-là aussi ce changement d'orientation. Qui a paru le slogan Rural is not dead. C'est un peu une boutade, mais en même temps, vous l'affichez vraiment sur tous vos documents de com. Il y a ce leitmotiv, là, ce slogan. Ça vient d'où ? Qu'est-ce que vous voulez affirmer avec ça ?
Ça vient. Alors, c'est pas propre aux Mouillotins pour l'anecdote, en fin de compte. C'est ça, Percupopette. On avait une batucada rurale.
Ouais.
Parce qu'on faisait de la batucada, musique brésilienne, fanfare brésilienne, machin, samba, carioca, samba reggae, tous ces trucs-là. Et du coup, à chaque fois qu'on se retrouvait dans des carnavals, il n'y avait pas de samba dans les petits bleds, enfin, il n'y avait pas de fanfare dans les petits bleds, c'était toujours Nantes, tous les gros trucs. Et donc nous, on était une samba rurale, quoi, voilà. Et on en jouait beaucoup, on l'assumait. Puis on a été pendant des années les invités d'honneur du Festival des Mouillotins. Et puis c'est venu comme ça, et puis sa percupopette a disparu. Moi j'étais dans sa percupopette et puis les Mouillotins en même temps. Et puis après c'est reparti, voilà. Sur il y a beaucoup de gens de sa percupopette qui sont dans les Mouillotins aujourd'hui, voilà. Ouais. Et du coup le rural is not dead, c'est ça, c'est que on peut être à la campagne et faire des choses, faire venir du monde, et puis voilà, quoi. Que c'est pas parce qu'on est né à la campagne qu'on est obligatoirement à part Pagnas, voilà, tout ça. Quoi.
Il y a des valeurs aussi que vous véhiculez, enfin, à travers le festival. Enfin, la notion de gratuité aussi, c'est pas anodin. Enfin, c'est pas, voilà, c'est aussi ça synonyme d'accessibilité de l'événement. Volonté aussi de proposer un événement familial, convivial, et puis une démarche aussi autour du développement durable qui est présente depuis quand même pas mal d'années dans vos préoccupations. Ça se traduit comment concrètement cette préoccupation-là justement du développement durable, voilà, enfin, quelles actions vous mettez en place pour aller dans ce sens-là?
Bah, l'idée c'était de faire un festival éco-citoyen. On a commencé en 2008 avec les toilettes sèches, une réflexion sur notre empreinte, on va dire. Puis quand on met éco-citoyen, c'est aussi l'accessibilité, comme tu disais, accessibilité à tous les publics de par la gratuité. Et ce qui fait aussi le trait d'union avec la tradition des Mouillotins, où on est sur une rétribution. Et là, du coup, nous, l'idée, c'était que la musique, que tu sois CSP- ou CSP+, tu peux assister à un concert, il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un concert, dans un festival, qui viennent, alors même si c'est par curiosité,
c'est très bien.
C'est pour dire du mal ou j'en sais rien. Vois, en tout cas, ils viennent. Mais il y avait aussi cette volonté d'ouverture d'esprit et tout ça, que les gens puissent voir autre chose. Et dans notre programmation, on fait attention aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a toujours une partie qui est plutôt familiale, accessible pour les familles. Et puis bah après, il y a un tournant, on sait que les familles ne restent pas jusqu'à trop tard, donc du coup, après, on balance sur des trucs plus jeunes.
Plus festifs.
Voilà, plus festifs.
Et puis voilà, vous valorisez des produits locaux, des producteurs locaux aussi sur le festival qui fournissent tout ce qui va servir à la restauration. Il y a aussi ces démarches-là.
Il y a depuis quelques années, ouais, on a un bar bio, bar bio, vin bio, cidre, jus de pomme bio, tout ça c'est local. Depuis 2 ans, on travaille aussi avec les producteurs bio locaux du territoire, moins du territoire. Quand je dis territoire, c'est Pays de Cran en fin de compte, voilà. Puis ça augmente petit à petit. Cette année, on commence même dans la restauration trad. Alors souvent, la restauration trad, dans n'importe quel festival, on ne fait pas trop...
Les frites,
bah voilà,
les frites
de saucisses. On ne fait pas trop attention d'où ça vient, machin. Et puis là, vraiment, cette année, on réfléchit vraiment à tout ça. C'est-à-dire que le steak haché, voilà, c'est des producteurs locaux. Alors, c'est pas du steak congelé, c'est des choses fraîches. Même sur notre montage, c'est-à-dire qu'on essaie aussi de faire travailler le maraîcher local. Il y a une réflexion aussi sur les déchets, sur les composts et tous ces trucs-là, quoi. Donc c'est une démarche globale, on va dire, quoi.
Sparka, me as a architect, a fist up, real bad man around here. Tell him so when I wrap up, when I live up, when I chat up, me as a. Jaded and dread. Because they're madder than sicker than them. Madder than sicker than them. Dreader than dread. Yeah, but look at me tell them, say, yo. Say what? We rise up and I let the pussy them a ball. Some a hurry up all police where them a call. That now go stop me with the killing none at all. Tell them empty look, no fear, no sound none at all. Blood is splash out and mar up on the wall. So who you gonna run to? Who you gonna tell? So the whole of them, the fussy them gonna hell. This antelope and nobody can tell. Sicker than them. Dreader than dread. Yeah, but look at me tell them, say, yo. And when we rise the machine them early morning, when it bust in at the dance and tear off your ceiling. If your family, your ball, them get bad feeling. And we bust it from early straight till later. Bust it at the street and tear down all your gator. Any sound this you know a killing straight. This antelope a murder in a the place. What am I do? What am I try? Jump and I go down. Put a bye in a them eye. This antelope a bomb clock sound die. Who you gonna run to? Who you gonna tell? Sin another jump and sound. Tell them ragamuffin when I play. Tell them the ragamuffin DJ. Tell them I Scaramucci all the way.
You know,
Jah Dread.
You know,
Jah Dread.
It's real hip hop. than badder than sicker than them. Badder than sicker than them. Dreader than dread, dreader than dread. You ever look at me tell them say, yo yo. Because we're badder than sicker than them. War them, war them, a war without them. Then the antelope when afraid, none of them. Real bad sound and the sound them sin out.
Voilà, petite excursion inter-jamaïcaine avec l'entourloupe, donc Dreader Than Dread, donc un groupe qui sera dans la prog de l'édition de cette année des Mouillotins. Petit mot sur l'entourloupe et puis bah, peut-être aussi élargir à la prog de cette année. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter, découvrir aux Mouillotins pour cette 15e édition.
Eh bien, y a l'entourloupe, ça c'est à découvrir. Alors, donc eux, ils passeront le vendredi, scène principale, 22h, un truc comme ça. Pour info, le projet, c'est eux qui ouvrent la scène principale.
Ouais.
C'est deux DJ de Saint-Étienne qui étaient plutôt, donc ont sorti un album l'année dernière. Qui était plutôt sur du bootleg, des choses comme ça, du remix de gros classiques hip-hop. Et puis là, ils ont fait un album qui est très très bien produit.
Qui a quand même des grosses influences et sonorités dub et reggae, quoi.
Ouais. Et du coup.
Pas mal d'invités.
Et puis là, cette année, sur scène, ils sont avec Troy Berkeley, donc qui est un MC qui habite en France, mais qui est de Trinidad à la base.
D'accord.
Qui est vraiment un super bon MC. Et puis ils sont avec un trompettiste qui est l'ancien trompettiste du Peuple de l'Herbe. Voilà, pour l'anecdote.
D'accord.
Alors si on continue sur la journée du...
Ça va être une soirée le vendredi, puisque tu allais continuer là-dessus. Ouais. C'est une soirée assez jamaïcaine aussi, parce qu'il y aura Stand Eye Patrol, voilà, c'est pas des Jamaïcains, mais ils sont carrément dans l'esprit sound system, reggae dub.
Mm-hmm.
Qui seront en DJ set.
Voilà, en DJ set. Donc nous, je suis content de voir Stand Eye Patrol chez nous, puisqu'en plus, c'est des négociations de longue date, c'est-à-dire que ça fait... peut-être trois bonnes années que j'essaye de les faire venir, qu'on n'a jamais pu se mettre d'accord sur des histoires de dates, et puis bah là ça tombe très très bien. Donc c'est sans Poupa Gym, mais c'est quand même avec Stand Eye Patrol, mais du coup on faut pas oublier qu'on est gratuit et que avec Poupa Gym tu multiplies le tarif par 3, quoi.
Ouais, Poupa Gym, donc c'est le MC du groupe habituel, voilà. Mais qui sera pas là du coup.
Non, du tout. C'est au-dessus de nos possibilités financières.
En tout cas, c'est vrai que c'est chouette parce que c'est un collectif. Bon, c'est des Brestois qui commencent à vraiment prendre de l'ampleur sur le milieu sound system et reggae en France.
Ah ben, mais je dirais même plus européen. Ouais. Du coup,
on les avait jamais vus ici en Mayenne, donc
non, du tout. Et puis bon, tu regardes leur tournée d'été, ils sont à Benny Cassim, ils font le Rototom, ils font au bout du monde, et puis au milieu de toutes ces dates, t'as accueilli ça des Mouillotins, donc voilà,
ça fait plaisir.
Exactement.
Général Lévy aussi.
Général Lévy avec le vétéran de musique urbaine anglaise, avec Joe Ariwa. Joe Ariwa qui est le fils de Mad Professor.
Voilà, donc on reste dans la sphère reggae dub.
Reggae dub et puis bah jungle, moi il a été connu avec son titre Incredible là qui était sur Ali G in the House, le film avec Sacha Cohen. Donc voilà, il a un gros tube. Ça tourne toujours, lui aussi il fait des grosses dates. Et puis il vient à Cuyer, donc ça nous fait plaisir. Et puis on a cette année, donc ça c'est un peu la nouveauté pour la 15e édition, on a une deuxième scène qui se monte. Donc on a agrandi le site, on a coupé des sapins et du coup on a implanté un petit chapiteau et on a confié le chapiteau. Moi c'est le collectif Sweet Lodge, donc un collectif nantais qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui est bien connu pour ses soirées délurées. À base de sound system aussi, musique électronique, de déco et tout ça. Donc du coup, ils seront là avec deux projets, avec HHH, donc un projet hip-hop, rock'n'roll, qui est vraiment bien aussi. Le chanteur, il a une petite touche d'Agenda Foundation, ça c'est marrant.
D'accord, et c'est chanteurs. Du hip-hop, mais joué live en fait avec des instruments.
Voilà, ouais. En gros, ils disent que c'est du rock'n'roll parce qu'il y a une guitare, quoi, tu vois. C'est ça le truc. Et puis, on a sur cette scène-là, on a Redux, donc, qui est le DJ officiel, on va dire, du collectif.
The Sweet Lodge.
Voilà, qui finira la soirée. Et puis on a aussi la fanfare des Scrocs, qui est une fanfare angevine qui vient depuis
ouais,
très
c'est
longtemps.
Des habitués, ouais.
Voilà, ouais. Et ouais, nous on est contents de les accueillir, ils sont contents de venir, je pense, je suis même sûr. Et du coup à chaque fois on les invite sur le week-end. Donc voilà, c'est des bonnes, c'est des rencontres en fin de compte, tu vois. Les gens, tu les invites, ils reviennent, on est content de se revoir et voilà.
Du coup ça crée une habitude et ça crée une petite famille.
C'est ça. Ouais.
Super, il y aura. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce qui sera proposé que tu as envie de souligner? Il y a aussi tout. Vous avez inauguré aussi une journée famille, ça c'est nouveau, je crois. Où en fait, on pourra profiter toute la journée du samedi de pas mal de choses, d'animations, de concerts.
Eh bien, dans notre envie de travailler avec des partenaires locaux, on a aussi mis en place ce partenariat avec l'école de musique du Pays de Cran. Donc là, ce sera la deuxième année.
D'accord.
Et ils nous proposent des projets courts, mais ils ont un atelier musique actuel, donc ils viendront nous faire 15 minutes. Ils ont une batterie, ils ont initié une fanfare, un marching band sur Renazé, qui viendra nous présenter
d'accord.
des morceaux aussi.
Okay.
Et puis, il y a la chanson des Mouillotins qui sera réactualisée.
On parlait tout à l'heure, la boucle est bouclée.
Exactement. Et puis, sur notre samedi, on a aussi un concert jeune public, on a de l'art de rue. Et puis on fait une fanfare pour le coup on a remis la fanfare au goût du jour avec la fanfare Eyo Henley qui est une fanfare béninoise qui pour l'anecdote a accompagné les Ogres de Barbac sur leur tournée de 20e anniversaire. On a également Smokey Joe and the Kids qui viendra avec son MC donc avec un projet hip-hop rétro. On va dire que c'est du hip-hop, mais l'idée de ce projet, c'est de pouvoir présenter du hip-hop aussi aux familles, puisque c'est du hip-hop qui est très très accessible. Ça joue en live, il y a des instruments aussi. Je pense que moi, l'idée, c'est de se dire les gens qui n'aiment pas le hip-hop, moi, qui ne savent pas ce que c'est le hip-hop, ils pourront
s'y retrouver,
l'apprécier. Hein. Voilà, ouais.
Ça sera le samedi.
Ce sera le samedi. Et puis on a aussi la Caravan Pass, qui eux aussi fêtent leurs 15 ans.
Voilà, ça tombe bien.
Voilà. Ils ont sorti un album pour leur 15e anniversaire. Et puis, on finira la scène principale avec Tom Fire. Tom Fire, qui est un producteur de musique reggae aussi,
ouais,
beaucoup,
ouais.
Qui a fait des gros featuring avec notamment
MC Solar.
MC Solar, Winston McAnuff avec Flavia Coelho, avec tout plein de beau monde en fin de compte.
Yes, donc une belle façon de finir le festival. Voilà, il y en a plein. Vous n'avez plus qu'à choisir là. Le programme est aussi sur le site internet du festival, évidemment.
Oui, c'est ça, en ligne.
Ouais. Voilà, donc rendez-vous le 10 et 11 juin donc pour la 15e édition du Festival des Mouillotins. Merci Antoine, en tout cas, de t'être rendu disponible et d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci aussi à Vincent qui a assuré la régie technique de cette émission. À bientôt donc pour de nouvelles aventures radiophoniques. Donc la prochaine édition de cette émission Transistor, c'est en septembre prochain, voilà. Donc d'ici là, bon festival et bon été. À bientôt.
Au revoir.